Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Éco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis Camille et je suis ravie de me retrouver pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'influence du genre sur les comportements environnementaux. Pour aborder cette thématique, nous recevons Magali Trélohan, qui est chercheuse et enseignante. Merci Magali d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour Camille, donc je suis enseignante-chercheuse à la South Champagne Business School, où j'enseigne le marketing et le management et où je fais de la recherche sur les comportements liés à l'environnement et les questions de genre.
D'accord. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que il y a des différences comportementales donc dans la lutte contre le réchauffement climatique entre les hommes et les femmes et s'il y en a, pourquoi?
Alors oui, ce qu'on observe au niveau de la recherche, effectivement, c'est qu'il y a des différences. Les premières différences qu'on observe, c'est au niveau des attitudes. En fait, on voit que les femmes sont plus préoccupées par l'environnement que les hommes. Donc ça, on le voit avec des échelles de mesure où on mesure la préoccupation à travers différents items. Et les femmes ont des scores statistiquement plus élevés que ceux des hommes. Donc c'est le premier aspect. Et ensuite, on retrouve cette préoccupation dans les comportements. Donc, effectivement, les femmes adoptent plus les comportements de protection de l'environnement, en particulier tous les comportements qui vont être liés au foyer, donc les comportements qui vont être liés aux achats alimentaires, à la consommation d'énergie, à la consommation de produits en vrac, au fait de faire ses produits soi-même. Voilà des exemples. Enfin, voilà quelques exemples. En revanche, quand on regarde les comportements qui sont à l'extérieur du domicile, on va dire, donc ce qui va être l'engagement dans des associations ou bien l'engagement politique, on a à peu près une égalité entre les hommes et les femmes. Donc en fait, la vraie différence, elle s'observe sur les comportements chez soi.
D'accord. Et pourquoi cette différence de comportement du coup?
Alors, il y a deux choses qui viennent l'expliquer. Donc, d'abord, la première, c'est la plus forte préoccupation pour l'environnement, donc qui fait que on essaye d'adopter des comportements qui vont être bons pour l'environnement pour réduire cette préoccupation qui peut se transformer des fois en éco-anxiété. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect qui est lié aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui s'occupent encore majoritairement des tâches ménagères, des tâches liées aux enfants. Et donc, du coup, elles sont plus impliquées dans ces secteurs-là, au sein de leur foyer. Et donc, par conséquent, c'est elles aussi qui vont adopter les comportements liés à l'environnement dans cette partie qu'elles gèrent.
D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse sur pourquoi les femmes ont des préoccupations plus fortes que les hommes en ce qui concerne la protection de l'environnement?
Oui, en fait, donc il y a des choses qui viennent que la théorie du care, donc du prendre soin, explique, en particulier par l'éducation qui est donnée aux petites filles et aux petits garçons. Dans les schémas qui sont transmis aux petites filles et ce qui est valorisé chez les petites filles, on va plus observer que les adultes vont valoriser chez les petites filles les comportements de prendre soin des autres. On va plus valoriser les comportements coopératifs et on va plus en même temps freiner les comportements qui vont être agressifs envers les autres ou compétitifs. Et donc les petites filles, quelque part, sont éduquées à prendre soin des autres. Et il y a une extension qui se fait sur le prendre soin de la nature. Et donc ça, c'est l'explication principale, en fait. C'est la construction qui est faite au cours de l'enfance et de l'adolescence à partir de stéréotypes sociétaux sur les filles et les garçons.
Ok, donc il y aurait des stéréotypes de genre qui influencent les attitudes et les actions liées à l'environnement, c'est ça?
C'est exactement ça, oui.
Quel type de stéréotypes, du coup, à part du coup, les femmes qui font le ménage ou des choses comme ça?
Alors ça, effectivement, pour les comportements, les premières choses qui peuvent, enfin, les choses qui peuvent, parmi les choses qui peuvent s'ancrer, effectivement, ça va être l'imitation de ce que les enfants voient au sein de leur foyer. Donc ça s'ancre de manière inconsciente chez les filles et les garçons. Et puis, effectivement, tout ce qui va être lié au care, donc au fait de prendre soin, d'être attentif aux autres. D'écouter les autres, tous ces aspects-là, et donc enfin aux autres êtres humains, et puis aux animaux, à la nature, à tout ce qui nous entoure. Donc quelque part, les femmes sont éduquées à adopter ces comportements, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve plus de femmes dans les métiers liés aux soins, donc les aides à domicile, les infirmières, etc. Voilà.
Ok, et principalement les femmes qui veulent adopter des comportements pro-environnementaux, quels peuvent être leurs obstacles et leurs motivations dans la mise en place de ces comportements pro-environnementaux du coup? Qu'est-ce qui pourrait les bloquer ou pas du coup?
Alors sur ce qui peut les bloquer, en fait, je vais à nouveau dissocier les comportements au sein du foyer puis les comportements à l'extérieur. En particulier pour les femmes qui sont en couple hétérosexuel avec des enfants. Ce qui peut les freiner à avoir des comportements, à s'engager par exemple auprès d'associations ou en politique écologique, quoi, c'est principalement qu'elles ont la charge du foyer, en fait. Donc ça va être le premier frein. Elles ont plus souvent la charge du foyer et la responsabilité des enfants. Donc c'est plus compliqué. D'une façon générale, les femmes sont moins dans les associations, moins que ce soit sportives ou autres d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier frein qui explique que les femmes vont moins aller vers ces possibilités-là. Après, au sein des comportements qui vont être liés au foyer, en fait, c'est à première vue les plus simples à adopter, parce que quand on fait ses courses, on va réorienter, par exemple en prenant des produits bio, en prenant des produits en vrac, on peut faire des choses en fait dans son quotidien. Donc ça semble plus simple, mais en même temps ça implique une charge mentale qu'on appelle la charge mentale écologique, qui vient s'ajouter à la charge mentale ordinaire, puisqu'en fait il va falloir penser à ça, en plus de penser au rendez-vous chez le dentiste pour le dernier, de ramener ceci ou cela à l'école, etc., et de faire les courses, etc. Donc ça vient rajouter une charge mentale supplémentaire qui est, en plus de gérer les courses, les repas, etc., il faut que j'achète des produits, par exemple, en vrac, et ça, c'est où je fasse des choses par moi-même, et ça, typiquement, ça prend du temps et ça prend de l'énergie mentale. Donc ça fait vraiment partie des obstacles pour que ces comportements-là s'ancrent sur le long terme, d'autant plus dans un couple où la femme gère la majorité des aspects familiaux et logistiques, quoi.
Ok, intéressant. Et tout à l'heure, on disait que les femmes avaient des plus fortes préoccupations environnementales, mais est-ce que ça ne peut pas s'expliquer par le fait que les femmes sont plus touchées par les conséquences environnementales du réchauffement climatique, du coup?
Alors oui, complètement. C'est un autre aspect qui est peut-être moins visible ou moins évident dans les sociétés occidentales, mais qui s'observe beaucoup plus dans les pays pauvres, où elles vont être effectivement en première ligne quand il y a des, quand il y a les, enfin, quand les effets du changement climatique sont là. Elles vont être effectivement les premières victimes et elles vont être en première ligne, que ce soit sur les aspects sociaux, économiques. Donc là. Effectivement, d'autant plus. Les études auxquelles je faisais référence quand je parlais de la préoccupation pour l'environnement ont été faites principalement dans des sociétés occidentales, donc États-Unis, Europe principalement. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect qui est celui des pays pauvres où les femmes subissent plus que les hommes les conséquences. Oui.
Ok. Et là, du coup, on a parlé surtout du côté féminin, mais de l'autre côté, au niveau masculin, comment les constructions de genre qui sont liées à la masculinité, elles peuvent influencer les comportements écologiques des hommes?
Alors, moi, dans ce que j'ai étudié, il y a un comportement sur lequel j'ai travaillé où on voit vraiment que les stéréotypes masculins influencent la consommation. En l'occurrence, c'est sur la consommation de viande et de produits végétariens. Donc, il y a tout un ensemble de croyances sur la viande et les apports qu'ils peuvent, les apports en protéines en particulier, qu'ils peuvent apporter, donc, en particulier aux hommes, qui fait probablement que les hommes consomment plus de viande, et en particulier de viande rouge, que les femmes. Et les femmes adoptent plus des régimes alimentaires végétariens. Les régimes alimentaires végétariens, d'un côté, sont très connotés féminins, et de l'autre côté, la viande est très connotée avec des croyances, enfin, avec des stéréotypes comme celui de la virilité et de la nécessité physique, en fait, pour les hommes d'avoir un fort apport en protéines. Alors qu'en fait, on peut tout à fait diminuer sa consommation de viande, voire complètement la réduire. Les recommandations de l'ANSES en la matière sont claires. Même les enfants peuvent adopter un régime végétarien sans dommage sur la santé, dans la mesure où où l'alimentation est équilibrée. Donc voilà, les hommes aussi peuvent tout à fait. Il n'y a pas du tout de contre-indication dans la mesure où ils équilibrent leur alimentation végétarienne. Mais bon. J'ai envie de dire, c'est la même chose quand on a une alimentation omnivore. Pour être en bonne santé, il faut bien l'équilibrer. Mais bon, voilà, il y a cette croyance que la viande est un produit important pour les hommes. Et donc là, on voit des différences clairement de consommation. Ouais.
Après, il y a peut-être aussi au niveau des transports et de la voiture, il y a peut-être aussi un élément où les hommes aiment montrer que ce sont des hommes en ayant des grosses voitures. Et là aussi, est-ce que ce ne serait pas un stéréotype et une croyance dans ce genre-là?
Oui, tout à fait. Il y a une étude assez récente qui a été faite dans un pays scandinave et qui montre ça, en fait, qu'il y a une différence effectivement, en particulier sur la pollution liée au transport entre les hommes et les femmes. La première chose sur le véhicule, effectivement, en fait, quand on étudie les comportements du consommateur, on voit qu'il y a trois motivations principales pour adopter, enfin pour consommer quelque chose. Soit la motivation est utilitaire, donc on a besoin du produit et on l'achète, soit elle est hédonique, et là ça va être pour le plaisir, soit elle est symbolique. Et quand on parle de la voiture et de masculinité, effectivement, il y a une forte dimension symbolique. La voiture peut être associée à la puissance et également à la virilité. Et donc ça va être aussi un marqueur social sur lequel les hommes vont beaucoup plus investir que les femmes. Donc ça, c'est pour la partie voiture. Ensuite, pour les transports et en particulier les transports aériens, cette étude montre que les hommes utilisent plus le transport aérien pour se déplacer. L'explication n'est pas tout à fait claire, enfin mérite certainement d'être encore approfondie, mais l'hypothèse est qu'ils ont des revenus plus élevés et qu'ils peuvent donc plus se permettre de prendre l'avion pour voyager. Mais voilà, donc là, c'est assez lié à un facteur, ce serait lié à un facteur économique qui permet de faire des voyages en avion. Quand on a plus de revenus que quand on en a moins. Et c'est vrai que sur les revenus, on observe des différences entre les hommes et les femmes.
D'accord. Et donc pour parer à tous ces stéréotypes-là, comment l'éducation ou même les politiques, les entreprises peuvent contribuer pour repenser les notions de masculinité et encourager les hommes à avoir aussi des comportements respectueux de l'environnement?
Alors, bah évidemment, et comme vous le dites, ça passe par l'éducation. Il est nécessaire de normaliser les comportements de protection de l'environnement pour les enfants, filles et garçons, bien sûr. Et donc là, dans les écoles, évidemment, des actions peuvent être menées en ce sens, même si enfin, les écoles font déjà beaucoup dans plein de domaines et dans des conditions pas toujours évidentes, mais néanmoins, ça peut être un bon endroit sur lequel investir pour les pouvoirs publics, pour normaliser, en fait, rendre normale la protection de l'environnement. Ça nécessite aussi une implication des adultes et des parents, parce que les enfants imitent leur premier référent, et leur premier référent, ce sont leurs parents. Donc, les parents doivent aussi prendre ça en charge de manière équitable dans les foyers pour que les enfants voit ça comme normal. Autre chose concernant le changement, dans cette étude que j'ai faite avec un chercheur en psychologie, Jordi Stéphan, sur les produits végétariens, on a testé la perception des produits végétariens comme étant des produits destinés plutôt aux hommes ou plutôt aux femmes. Et en particulier, on a observé que quand on fait goûter le produit, ça inhibe cette perception que ce ne sont pas des produits faits pour les hommes. Donc, en fait, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire de ne pas laisser les consommateurs simplement sur leurs croyances, mais de les engager dans un comportement effectif, par exemple par une dégustation. Et ça, donc, ça inhibe très bien les représentations stéréotypées sur les produits végétariens comme n'étant pas faits pour les hommes. C'est aussi un bon levier finalement pour les marques qui commercialisent ces produits. Des dégustations en magasin, c'est assez simple à organiser et eux, ça leur permet de vendre leurs produits. Donc, ils ont un intérêt aussi à y trouver. Ça peut être aussi quelque chose de mis en place par les associations. D'une façon générale, la méthode des petits pas, donc d'engager dans un petit comportement pour commencer, c'est certainement la meilleure façon d'engager d'une façon générale les individus dans des comportements de protection de l'environnement.
Ok. Et au niveau des entreprises, est-ce qu'elles aussi, elles peuvent se saisir du sujet et aussi agir pour promouvoir cette égalité de comportement entre les hommes et les femmes?
Ah bah, très certainement, les entreprises maintenant s'engagent dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et alors, des fois, c'est juste de l'affichage, et puis des fois, ça passe vraiment par des changements en interne. Et là, il y a vraiment une attention particulière à porter sur cette notion d'égalité femmes-hommes pour ne pas reproduire dans les entreprises ce qu'on observe déjà dans les foyers. Parce que c'est quand même une tendance qui peut s'observer aussi, et donc faire en sorte que les hommes s'engagent aussi dans les comportements de protection de l'environnement que l'entreprise va mettre en place. Après, l'entreprise, il y a un certain nombre de choses qu'elle va promouvoir dans son entreprise et pour lesquelles les salariés vont être volontaires. Donc évidemment, elle ne peut pas forcer les gens à être volontaires, mais c'est en tout cas un regard particulier qu'elles doivent avoir. Et dans la façon dont elles vont communiquer en interne auprès de leurs salariés, de manière à pas renforcer les stéréotypes de genre sur ces comportements-là.
Complètement. Après, là, je sais que dans nos auditeurs, on a des hommes bienveillants et qui voudraient s'engager dans l'écologie, dans des comportements environnementaux sains. Est-ce que vous avez des idées d'initiatives ou des mouvements masculins qui promeut des comportements écologiques ou masculinité positive par rapport à l'environnement?
Alors, j'en ai pas connaissance, mais je pense qu'à l'échelle individuelle, ces auditeurs peuvent tout à fait s'engager soit dans le quotidien. Alors, après, évidemment, ça dépend de leur situation personnelle, mais s'ils sont en couple hétérosexuel, en créant le dialogue sur ce sujet avec leur compagne ou leur femme, et puis en voyant comment ils peuvent la décharger d'une façon générale de la charge mentale et aussi de la charge mentale écologique pour la répartir au sein du couple. Et puis après, évidemment, ou bien pour leur laisser du temps aussi, pour laisser du temps à leur femme, compagne, pour aller elles-mêmes dans des associations. Parce que ça peut être ça aussi, une façon de s'engager pour l'environnement, c'est de donner le temps, donc de s'occuper des enfants le soir ou que sais-je, pour que l'autre aille dans une association, si l'autre a envie, évidemment. Ou soi-même aller dans une association pour les hommes, mais j'ai une petite vigilance là-dessus parce que finalement les hommes vont avoir plus facilement tendance à aller vers l'extérieur, et ce qui reproduit en fait des inégalités de genre.
Totalement. Bah, merci pour cet échange et pour toutes ces informations très intéressantes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ou par un autre biais sur Internet? Dites-nous.
Eh ben, simplement tapant mon nom dans Google et sur les réseaux sociaux, je suis plutôt active sur LinkedIn.
Ok, ça marche. Merci encore et à bientôt peut-être.
À bientôt, merci.
Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite!